Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand entretien.
Et notre grand entretien ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, ministre de la Transition énergétique. Le Club du nucléaire va se réunir pour la troisième fois ce matin, dans quelques minutes. C'est deux réunions pour pouvoir avoir un impact sur la politique industrielle européenne et la politique énergétique. C'est vous qui êtes à l'origine de ce Club du nucléaire. Il y a 16 pays, il n'y a pas l'Allemagne, mais il y a un invité surprise. Aujourd'hui, c'est la Grande-Bretagne. Ça veut dire quoi d'inviter la Grande-Bretagne dans cette réunion ?
Bonjour. Alors, effectivement, j'ai lancé ce club du nucléaire pour rendre visible tous les pays, tous les États membres de l'Union européenne qui aujourd'hui investissent dans le nucléaire, parce que nous pensons qu'avec les énergies renouvelables, il n'est pas question d'opposer nucléaire et énergie renouvelable, nous avons, avec le nucléaire aussi, un levier de décarbonation de nos économies. C'est absolument indispensable si on veut atteindre nos ambitions climatiques. Et le Royaume-Uni, c'est un pays qui aujourd'hui est en cours de construction de deux réacteurs nucléaires, deux EPR2 à Hinkley Point C.
Par EDF, hein.
Par EDF, en l'occurrence, et qui a pris la décision d'en construire deux supplémentaires. Donc c'est un pays qui est réengagé, lui aussi, dans l'aventure nucléaire, mais à la différence de la Finlande qui vient de connecter son réacteur nucléaire, puisque vous savez que le réacteur finlandais, là aussi livré par EDF, fonctionne aujourd'hui à pleine puissance en Finlande. Le Royaume-Uni est, lui, au milieu du chantier et peut faire un retour d'expérience aux autres pays européens pour dire ben, je constate, par exemple, qu'entre le premier réacteur et le deuxième réacteur, on constate 30% de gains de productivité. Je vois l'état de la filière nucléaire européenne. Je peux vous dire que 90% de mes sous-traitants sont européens. Donc, c'est une énergie qui est totalement souveraine en Europe, à la différence de beaucoup d'autres énergies où nous dépendons, par exemple, de la Chine. Je pense aux panneaux photovoltaïque.
Alors on a plein de questions parce que vous dites souverain, on dépend aussi de pour l'uranium notamment de pays étrangers, on dépend de la Russie pour le retraitement aujourd'hui.
Donc ça, alors il y a ça débat. C'est pas exact, je veux le préciser. La France ne dépend pas de la Russie.
Pour le carburant, mais pour le retraitement on en dépend.
Non, parce que nous pouvons nous passer du retraitement du combustible usé, ce n'est pas indispensable dans le fonctionnement. Et nous le faisons pas tout simplement parce que le coût de renoncer à ce contrat avec la Russie apporterait plus de devises à la Russie compte tenu des sanctions qui sont prévues dans le contrat que de le mettre à minima. Ça, c'est important de le dire parce que c'est un petit peu la fake news qui tourne. Et en fait, la France est totalement indépendante de la Russie. Et c'est pour ça que nous sommes une solution pour les pays de l'Est qui ont des centrales russes parce qu'elles ont été construites au moment de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, elles veulent se désengager de la Russie.
Alors, c'est une précision, mais en même temps, vous reconnaissez qu'effectivement, on ne va pas dénoncer le contrat avec les Russes. Ça nous coûterait trop cher de l'énoncer aujourd'hui.
Non, ça apporterait trop de devises à la Russie par rapport à ce que leur apporte aujourd'hui le contrat. Et donc, nous ne sommes pas là pour servir la soupe à la Russie.
Alors, vous dites que c'est complémentaire des renouvelables. Vous savez que ça fait débat en Europe. C'est d'ailleurs pour ça que vous organisez ce club des 16. Parce que certains pays, comme l'Allemagne, disent qu'on n'a pas besoin du nucléaire, qu'on peut aller vers la transition totale, vers un 100% d'énergie verte. Ça veut dire qu'il y en a un des deux, les Français ou les Allemands, qui dans 20 ans pourra dire qu'ils se sont trompés en 2023. Selon vous, c'est les Allemands qui se trompent aujourd'hui ?
Alors, moi, vous savez, je me fixe sur ce que disent les experts. Et aujourd'hui, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie ou le Haut Conseil pour le climat ou d'autres, ils constatent d'abord que le nucléaire est une énergie bas carbone.
Ça, c'est sûr.
Et par ailleurs, ils constatent qu'il y a une croissance des projets nucléaires, pas seulement en Europe, hein, j'ai cité le Royaume-Uni, mais également au Japon, on parle de relancer la filière, aux États-Unis, en Inde, en Chine. Le nucléaire est aujourd'hui considéré comme des leviers importants de décarbonation. L'Allemagne choisit un autre chemin qui repose en fait sur le gaz naturel et sur le fait de mettre en place de la capture carbone. C'est un chemin qui est possible. Nous pensons qu'il est dommage, a fortiori quand on est la France et qu'on a cette filière nucléaire d'excellence, de se priver de cette filière nucléaire. Et nous sommes aujourd'hui plus d'un pays sur deux dans l'Union européenne à penser la même chose.
Qu'est-ce qui doit sortir de ce club après ces réunions de ce matin ? C'est des recommandations, c'est un plan industriel, c'est des accords entre pays, et c'est quoi l'objectif ?
Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, je veux rappeler que la Commission européenne participe à cette réunion, ce qui montre bien l'intérêt de l'Union européenne en tant qu'institution pour le nucléaire.
L'intérêt, mais il y a des petits doutes, parce que par exemple, on doit se battre à chaque fois pour que le nucléaire soit reconnu par les instances européennes dans tous les projets de loi, dans toutes les directives, comme effectivement une énergie verte. En tout cas, décarboné.
Alors, décarboné sans problème, mais effectivement, l'énergie nucléaire n'a pas un statut d'énergie renouvelable.
Ah, c'est ça.
À ce titre, nous, on n'a pas de problème pour dire que l'énergie nucléaire est différente de l'énergie renouvelable. Là où nous avons un problème, c'est de faire une différence en termes de financement ou en termes de soutien. Nous pensons qu'il faut de la neutralité technologique, et c'est la position que je porte systématiquement et avec cette coalition, et qui a permis de déboucher sur des avancées. C'est vrai qu'il y a 3 ans, vous avez raison de le souligner, prononcer le mot nucléaire au niveau européen, c'était très tabou. Et ce que nous avons fait sous l'égide du président de la République, c'est de reprendre la main sur le nucléaire, de montrer que c'était un des éléments de la solution, pas l'élément unique pour la lutte contre le réchauffement climatique, et que nous avions tout intérêt, parce que c'est un sujet évidemment d'indépendance énergétique, mais c'est un sujet industriel. Lorsqu'on va construire de nouveaux réacteurs, c'est 100 000 emplois que nous allons créer dans 100 000 recrutements que nous allons faire dans les 10 années qui viennent, et on a la même chose au niveau européen. Et donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on attend ? Non, c'est un plan industriel. Ce que nous voulons, c'est un plan industriel. Comment on finance ? Comment on fait monter en compétence la filière nucléaire, puisqu'elle est aujourd'hui capable de produire quasi intégralement les réacteurs nucléaires en Europe, et encore une fois, c'est un très gros avantage par rapport à d'autres énergies sur lesquelles nous sommes dépendants de pays qui sont à l'autre bout du monde. Comment on forme ? Je parle de 100 000 personnes que nous devons recruter, il va falloir les former. C'est des chaudronniers, des tuyauteurs, des soudeurs. C'est la même chose dans les autres pays qui veulent relancer leur filière nucléaire. Comment on innove ? On fait de la recherche et développement. Vous accueillez tout à l'heure Nucléo sur votre plateau. Ce sont des projets qui sont extrêmement intéressants, qui peuvent permettre justement de faire du nucléaire quasiment une énergie renouvelable, pour le coup, si on gère le problème
des déchets.
Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble, parce qu'on ira plus vite, parce qu'on aura plus d'impact, et parce qu'il faut s'organiser.
Alors, vous parlez de Nucléo, effectivement, qu'on a reçu, qui est une start-up italo-britannique, européenne, on va dire, du nucléaire, qui va investir 3 milliards en France pour fabriquer en France le prototype du petit réacteur nucléaire, ce qu'on appelle les SMR, pour fabriquer aussi la partie combustible. C'est pas dangereux, cette prolifération d'acteurs privés, de start-up, un peu comme dans le spatial, dans le domaine du nucléaire?
Alors, il faut savoir que l'autorité de sûreté nucléaire, elle éveille et elle validera tous les projets. C'est d'ailleurs un des enjeux aussi de notre coopération européenne, c'est comment on coordonne l'ensemble des autorités de sûreté nucléaire pour partager les informations et faire en sorte qu'effectivement on ait le plus haut niveau de sécurité, de sûreté nucléaire par rapport aux projets qui interviennent. Lorsqu'on est au niveau du laboratoire, ces travaux ne posent pas de problème particulier. Bien sûr, ils sont accompagnés. Bien sûr, ils sont accompagnés. Là où vous avez raison, c'est que il faudra qu'on soit attentif, et nous le serons sur le développement de nouveaux réacteurs. Ce que prévoit la loi aujourd'hui, le projet de loi qui va être voté dans les prochaines heures, je l'espère,
à l'Assemblée nationale,
ce projet d'accélération, c'est qu'on n'installe pas de nouvelles infrastructures nucléaires en dehors des zones qui ont déjà accueilli du nucléaire. On le fait en proximité de zones qui ont l'expérience du nucléaire, parce que oui, vous avez raison, l'énergie nucléaire est une énergie qui appelle une attention particulière en matière de sûreté et de sécurité. Et ce que permet ce projet de loi, qui va être très largement voté au niveau du Parlement, c'est au fond aussi d'intégrer des notions de sûreté et de sécurité nucléaire complémentaires.
Et les questions de sûreté et de sécurité, les questions de dépendance, vous en parliez. Est-ce que vous avez l'impression, dans cette transition énergétique, c'est juste un choix de qui nous serons dépendants dans les futures années ? C'était la Russie, désormais ça sera peut-être la Chine. C'est ça notre choix aujourd'hui en matière énergétique ?
Alors je ne le crois pas, et c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation que nous portons. Vous savez que depuis 6 ans, avec le président de la République, nous avons relancé la machine industrielle. Je suis bien placée pour en parler. J'ai été presque 4 ans ministre en charge de l'industrie, et au travers de l'énergie, aujourd'hui, aujourd'hui, je redéveloppe des filières sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur le nucléaire, évidemment. Donc, tout l'enjeu, c'est précisément de ne pas remplacer une dépendance. La dépendance que nous avons aujourd'hui, elle est aux énergies fossiles. C'est le pétrole, c'est le gaz. Par une autre dépendance.
Sur les métaux rares, on ne peut rien faire en France, on n'a pas les capacités.
Alors, ce n'est pas tout à fait exact, et précisément, si vous avez suivi Choose France, hein, Choose France, c'est 13 milliards d'euros d'investissements annoncés par des investisseurs privés, essentiellement dans l'industrie, et à peu près plus de la moitié qui correspondent à des projets de transition énergétique, et notamment sur la batterie électrique, sur la transformation des terres rares. Les terres rares ayant une spécificité, c'est qu'elles ne sont pas rares, elles sont très largement distribués dans le monde. Il y en a, y compris d'ailleurs en France. Vous savez qu'on a, on soutient un projet de lithium dans le centre de la France. Par contre, c'est leur transformation qui aujourd'hui est quasi intégralement dans les mains de la Chine. Et avec, par exemple, un projet comme celui annoncé par XTC et Orano à Dunkerque, eh ben, on est en train de mettre en place cette brique de, qui va nous permettre effectivement de construire notre propre capacité à transformer ces terres rares.
Est-ce qu'on va assez vite? Parce que quand on reçoit des énergéticiens dans l'éolien offshore, par exemple, ils nous disent que la nouvelle loi qui va être à l'Assemblée aujourd'hui, c'est bien, mais que ça ne va pas assez vite. C'est encore des délais trop longs par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni, en Allemagne. Et puis, il y a l'IRA américain. Il y a beaucoup de, par exemple, de professionnels de l'hydrogène vert qui nous disent on va plutôt aller fabriquer l'hydrogène vert aux États-Unis parce qu'on est plus subventionné qu'en Europe et en France.
Alors, d'abord, première chose, et je pense que c'est utile que ceux qui nous écoutent le sachent, nous avons développé les énergies renouvelables depuis 10 ans, exactement au même rythme que l'Allemagne.
Pourtant, on a moins d'éoliens, de champs d'éoliens en France qu'en Allemagne.
C'est exact, mais lorsque vous regardez la somme de toutes les énergies renouvelables que nous avons déployées, en 2012, nous étions tous les deux pays du côté de 13% de notre consommation finale. En 2021, la France est à 19,4%, l'Allemagne est à 19,2%. Donc vous voyez, c'est strictement la même trajectoire. Ça, je pense que c'est important de le faire. On se flagelle souvent. En fait, le bilan est un peu plus nuancé qu'il n'y paraît. La deuxième chose, c'est que, alors c'est pas la loi d'accélération du nucléaire, c'est une autre loi que j'ai également portée au Parlement et qui a également été largement votée.
Sur les renouvelables.
La loi d'accélération sur les renouvelables va permettre de gagner plusieurs années sur la mise en œuvre des projets d'éolien en mer. Mais oui, il faut absolument accentuer le rythme et surtout donner de la visibilité aux acteurs. On s'y emploie. Notre objectif, c'est d'avoir une planification grosso modo des zones qui peuvent accueillir des parcs éoliens marins et sur cette base-là de pouvoir lancer des appels d'offres beaucoup plus importants, ce qui permettra aux acteurs de se positionner et puis d'avoir de la visibilité sur les différents projets et de pouvoir s'organiser pour investir.
Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir été avec nous. On vous laisse rejoindre votre club du nucléaire.